Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, vous avez un ami, un époux, une épouse ou une connaissance qui n'arrête pas de mentir. Il y a certaines personnes comme ça qui mentent comme ils respirent. Qu'il s'agisse des faits qui les concernent personnellement ou de ce qui se passe dans son entourage, c'est généralement le mensonge qui sort de sa bouche. Alors comment vivre avec une telle personne et que faire pour l'aider à changer de comportement, hein, ces personnes qui mentent à tout moment. Madame Ruth Bouka Bao, psychologue, clinicien et enseignante à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Madame Ruth, bonjour.
Bonjour.
Alors nous parlons de ces personnes-là qui mentent beaucoup. Alors dites-nous, quelles sont les causes de ces genres d'attitudes? Qu'est-ce qui serait à la base de ces mensonges dans les chefs de certaines personnes?
Bon, eh ben, normalement, nous devons d'abord comprendre, parce que les mensonges, ce sont des propos qui sont délibérés d'un fait ou d'une situation contraire à la réalité, et qu'une personne parle de ce qui n'est pas réel. Et nous devons aussi comprendre que le mensonge, dans cette tendance-là, de mentir, est universel. C'est inhérent à l'homme. C'est au-dedans de nous. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas se dépasser. C'est dans nous. Les mensonges aussi est inné. Nous naissons avec les mensonges. Et là, je vous parle étant psychologue clinicienne. Mmh. Lorsqu'il y a communication entre deux personnes ou plusieurs personnes, il y a toujours risque de mensonges. Mais en psychologie, nous avons constaté ceci avec la recherche, avec la documentation, avec tout ce qu'on a à la faculté et ailleurs, que les mensonges, ça se reproduisent chez les enfants dès le bas âge. Là, on trouve ça normal. Chez l'enfant, il se dit, il est une personne imaginaire, une personne qui n'existe pas, il ne comprend pas. À ce niveau-là, à ce stade-là, on s'est dit, c'est normal chez l'enfant, il peut se comporter comme cela. On les persuade, on les cherche. Comment on peut changer cette attitude, comment on peut changer ce comportement de ce bas âge, cette capacité de mentir à tout moment chez l'enfant. Mais chez une personne adulte, chez un adolescent ou une personne qui est déjà adulte, lorsqu'on ment à tout bout de champ, C'est un comportement pathologique. C'est pathologique, c'est un trouble de personnalité. À ce moment-là, cette personne-là, nous devons les prendre en charge. Nous devons les prendre en charge. Premièrement, nous devons comprendre les mensonges que la personne est en train de dissimuler là, de propager. Ça provient d'où? Quelle est la morale que la personne a pendant ce temps-là, qu'elle est en train de dire ces mensonges?
Oui, Madame Ruth, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure pour les cas des enfants, par exemple. Un enfant qui a volé, par exemple, un morceau de viande dans la marmite, quand maman arrive et pose la question, peut-être qu'il sera tenté de mentir tout simplement pour fuir la punition, pour ne pas être puni.
Oui. Là, c'est normal chez les enfants comme cela. Là, on dit que l'enfant ment pour se protéger. C'est parmi les formes de mensonges que nous avons. C'est les mensonges qu'on dit, les mensonges altruistes. On ment comme cela pour se protéger par rapport à ce qu'on pouvait faire, par rapport à la punition qui est devant lui, par rapport à la situation frustrante qui est devant lui. On peut facilement mentir chez l'enfant. On trouve ça normal et dans le calme, on peut le ramener à la raison, dire qu'il fallait demander, il fallait pas voler. C'est ta nourriture, ça t'appartient. Voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon. Et c'est comme cela chez l'enfant. Nous trouvons normal au bas âge, lorsqu'il ment pour se protéger, pour l'altruisme qu'il a, Et à ce moment-là, on s'est dit, on intervient et on peut facilement changer l'attitude de l'enfant de ne pas mentir d'une façon précoce. Souvent, il faut faire ces interventions-là précocement. Dès que la personne commence à mentir comme cela, vous intervenez précocement pour changer cette attitude-là dès le bas âge, au cas où il grandissait avec ses... Ça va devenir une pathologie qui deviendra vraiment gênante dans la société par rapport à elle-même et par rapport à son entourage.
Alors, professeur Huth, on peut dire qu'un adulte qui ment beaucoup, est-ce qu'on peut déduire que ses parents ne l'ont pas aidé de le bas âge?
Oui, oui, parmi les problèmes que nous rencontrons dans nos consultations, là où on reçoit les gens, les adultes qui viennent en consultation avec ces problèmes de mensonges exagérés, et on s'est dit, normalement, nous devons d'abord analyser les contextes là où il se trouve, comment il est, qu'est-ce qui se présente chaque fois devant lui pour mentir. Est-ce qu'il y a la peur de l'autre, ce qui le pousse à mentir? Est-ce que c'est l'inconnu qui est au-dedans d'elle qui le pousse à mentir? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que ce sont des douleurs? C'est la solitude. Qu'est-ce qui le pousse? Il faut vérifier le contexte de la personne. Et puis vérifier le milieu, là où la personne vit. Peut-être dans son milieu, mentir c'est bon. Mentir c'est une situation qui n'est pas anormale. Et tout ça, il faut vérifier chez l'individu, le contexte, le milieu, l'environnement qui l'entoure. Quel est cet environnement-là?
D'accord. On va accueillir deux auditeurs et je reviens à vous tout à l'heure. Julien Kabena, vous êtes à Kananga et Mary Kabongo aussi est dans la même ville. Julien, on commence avec vous. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Ma préoccupation est la suivante. Avant que je n'arrive même à la préoccupation, voici mes arguments que je vais donner. À ce qui concerne les mensonges, c'est une influence dans nos milieux que nous vivons chaque jour. Alors, nous nous demandons combien ça fait-il que le jeune même responsable se trouve dans cette circonstance. Vous voyez un ministre, vous voyez un chef, vous voyez un chef de famille qui trompe devant ses enfants. Qu'est-ce qui s'est fait? Voici maintenant ma préoccupation. À travers les explications de notre invité et de notre invité, il nous dit que c'est quelque chose de pathologique, c'est quelque chose d'inné. Moi, je me demande, les hommes de Dieu disent que quand on ment, on fait beaucoup d'efforts que quand on dit la vérité. Qu'est-ce qui peut donner comme raison par rapport à cette demande-là? Quand on ment, on fait beaucoup d'efforts que quand on dit la vérité. Et aujourd'hui, il y a une pensée qui dit aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais en cas de sauvetage, elle est bonne à dire. Pourquoi cette pensée-là? On doit d'abord cacher quelque chose pour ne pas donner la vérité, mais pour bâtir. C'est les milieux qui influencent, c'est la famille qui influence. Pour protéger ses valeurs, pourquoi tromper? Mais on fait beaucoup d'efforts pour tromper, non? Regardez quelqu'un qui vous trompe comme s'il est en train de clignoter les yeux. Combien il vous parle, irresponsable. Mais il vous trompe comme s'il ne vous a jamais dit bonjour. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est seulement bonjour qui est bon. C'est ça mes deux préoccupations.
Merci Julien. Et Mary Kabongo, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Jody. Bonjour Madame l'invitée.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces personnes qui mentent beaucoup?
Oui, merci. Moi, je comprends d'abord le fait de mentir comme le fait de ne pas dire la vérité, dire quelque chose de contraire à la vérité ou cacher la vérité ou induire volontairement en erreur. Mais je comprends qu'il y a sur cette terre des vérités relatives et des vérités absolues. Des vérités relatives, ce sont des vérités qui peuvent changer à tout moment. Parce qu'il y a des vérités qu'on appelle des vérités officielles, donc des vérités qui sont là pour aider. Même si vous mentez, mais ça aide quand même. Donc des mensonges officiels.
Un exemple, Emery.
Un exemple où je viens...
Oui, on vous entend pas très bien. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça va bien marcher. Non, désolé, on vous entend plus. Professeur Ruth, vous avez suivi les préoccupations des Juliens, qui dit que même des chefs de famille qui mentent devant les enfants. Alors, quelqu'un a dit, quand on ment, les hommes de Dieu, quand on ment, on fait beaucoup plus d'efforts que lorsqu'on dit la vérité. Et puis, il dit également que toute vérité n'est pas bonne à dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, je pouvais répondre à Julien que bien sûr, lorsqu'on ment, on fait tellement d'efforts. Parce que lorsqu'on ment, j'ai dit que chez les adultes, c'est devenu une pathologie. Et lorsqu'on ment comme cela, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est devant vous, qui vous empêche, il y a quelque chose qui est plus frustrant, qui vous entoure, c'est ce qui peut faire que vous puissiez mentir. Vous avez volé parce que vous avez besoin d'argent étant ministre. Vous avez pris de l'argent du pays qui n'est pas le vôtre. Et pour ne pas dire la vérité, vous mentez à tout moment avec en cravate, mais on est en train de mentir parce qu'on a la peur qu'on vous rejette une mauvaise image. On a la peur de l'inconnu, mais entre autres, on a aussi des besoins qu'on doit satisfaire. Et dans de pareilles conditions, les traitements, il faut dénoncer. Nous sommes dans ce mois de la femme, hier c'était le 8 mars, et nous devons dénoncer le mal, le mensonge là. Ça constitue un mal, il faut dénoncer, il faut dire tout haut. Mais dans nos contextes, dans nos milieux, c'est ce qui est difficile, qu'on ne peut pas dénoncer un ministre, on ne peut pas dénoncer un PDG, on ne peut pas dénoncer un mari. La femme est toujours soumise, les enfants sont toujours au rabais, on ne peut rien dire au papa, il peut tout dire. Mais cette fois-ci, ce que je conseillerais à Julien, qu'il faut dénoncer là où il y a le mal. Dénoncer la personne. Dire que c'est un mal, c'est pathologique. C'est un mal qu'on peut facilement changer, un mal qu'on peut prendre en charge sur le plan psychologique et changer, surtout si c'est ancré. Surtout si c'est devenu pathologique et chronique, on peut facilement le prendre en charge, l'accompagner et changer ce mal-là.
Voilà. Alors, il a parlé également des parents qui mentent devant les enfants. Est-ce que c'est une façon de préparer des futurs menteurs?
Oui, c'est une façon. C'est comme cela. Tout à l'heure, là, je parlais du contexte. Lorsque vous voulez changer la personne, vous voulez changer la personne pour ne pas mentir, notamment les enfants. Il faut modifier le contexte de ces enfants-là. Modifier l'environnement de ces enfants-là. Si les enfants se retrouvent dans un environnement là où on ment comme on respire, là où on ment même pour des petites choses, même là où on a raison, lorsque c'est pathologique, vous pouvez avoir raison. Vous n'avez rien fait du mal. Mais comme c'est quelque chose qui est dans vos mentales, c'est un trouble de personnalité. Vous mentez sans pour autant vous rendre compte. C'est dans l'inconscient. Et lorsqu'on ment comme cela chez un papa, c'est un papa qui s'est régressé à un enfant. C'est une régression psychologique. Donc il se considère maintenant comme un enfant inconscient qui ne comprend rien. Mais lui comprenant ce qu'il fait, il ment. Et voilà. Là, c'est pas normal pour les enfants. Il faut changer carrément le contexte. Changer les milieux.
Voilà, on va accueillir Gaston de Kinshasa et Jeff Ngoy de Kananga. Gaston, bonjour.
Bonjour, à vous aussi, aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux mensonges?
Bon, j'allais dire d'abord, demander aux madames,
oui,
qui est là au studio, de nous dire si elle a déjà eu une fois lu un livre qui parle de l'éthique des situations. Hein, l'éthique des situations. Mais j'allais aussi dire que, en réalité, le mensonge est relatif. Donc, dire le mensonge, pour moi, le mensonge, c'est une manière de se défendre, hein, c'est une manière de se défendre devant une situation. Et vous utilisez un langage qui vous protège pour l'instant, mais qui ne peut pas se réaliser, mais vous faites protéger. En fait, vous agissez, hein, vous faites un comportement qui, lorsqu'on vous met, c'est un peu dans ce mélange, mensonge dans le sens biblique, c'est que c'est donc faire les choses et qui n'amène pas les gens vers Jésus, par exemple. Donc, il n'amène pas les gens vers le salut. Là, vous pouvez propager le mensonge, soit vous vous comportez en Seigneur, pour votre gloire, vous traînez toute une personne de vous.
Alors Gaston, vous dites que
en enfer, par exemple, parce qu'ils n'ont pas retrouvé la vérité sur
oui.
Mais le mensonge dans le sens simple par exemple, où chaque jour il faut par exemple se défendre devant. Je vais donner l'exemple que vous avez dit qu'un enfant a volé. Il a pris quelque chose dans la marmite. Mais moi, pour moi, si l'enfant a à manger à sa disposition, il n'aura pas le temps d'aller chercher quelque chose et puis venir devant un tel procès comme vous l'avez montré, comme parce que nous l'avons vécu, nous.
Alors, Gaston, vous voulez nous dire que mentir, ça vous aide de temps en temps à échapper à certaines situations dans la vie?
Oui, parce que moi, personnellement, même en politique, hein, c'est ce qui veut dire, vous avez dit, même de passer plusieurs fois dire les choses qui au final ne se sont pas réalisées. Par exemple, il y aurait l'élection, le président va. Mais au moins, au final, juste là, nous avons le président de la République, lui, c'est lui là. Mais par rapport stratégiquement pour passer les jours, pour au moins apaiser les choses, dans le sens de prévoir, vous dites les choses que vous trouvez être normales, mais qui peuvent se réaliser. Vous les avez quand même. Dites, les mensonges, normalement, c'est ce que moi, personnellement, si je vois que c'est pas nuisible, je propage, hein, je me défends.
Voilà, merci. Donc, on comprend Gaston. Gaston, c'est quelqu'un qui aime mentir, et puis voilà, et c'est ce qui nous fait comprendre. Jeff Ngoy, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour aussi à l'invité qui est sur le plateau.
On vous écoute.
La thématique d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus. Concernant ce que je suis en train de vivre dans la société aujourd'hui, vous trouverez avec moi que je dis, intérieurement, je me sens en train de dire la vérité à quelqu'un. Mais cette personne à qui je dis la chose ne croit pas. Elle me dit, je suis en train de mentir. Mais moi, personnellement, je dis la vérité. Cette personne-là ne me croit pas. Monsieur Jody, vous savez, l'histoire d'Isaac dans la Bible, avec Ésaü et Jacob, combien est-ce qu'Ésaü avait menti à Isaac pour hériter le pouvoir de son grand frère? Vous savez cette histoire-là. D'une part, je suis en train de dire que le mensonge sauve en quelque temps. Et en quelque temps autre, le mensonge nuit à la personne ou à la... à la dignité de l'homme. Mais je suis en train de trouver que même les parents aujourd'hui, je suis en train de précéder les idées de mon co-débatteur Julien Kabena. Il dit que même les parents, oui, normal, les parents apprennent même le mensonge aux enfants lorsqu'ils sont encore petits.
Alors dites-nous, Jeff, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vivre avec une personne qui ment à tout moment, d'après vous?
D'après moi, psychologiquement, je vous dirais que de telles personnes comme ça, ça demande une certaine sagesse. Savoir comment agir, maintenir ces gens-là dans la société. Ne pas les brutaliser, mais garder ces gens-là avec sagesse, savoir comment ils agissent, des choses comme ça.
D'accord, merci.
Alors, une préoccupation, je dis.
Oui.
Je demanderai à l'invité. C'est un fait social ou c'est un phénomène social, les jardins de mensonges?
D'accord, merci. Professeur Huit.
Oui.
Vous avez la parole.
Oui, je vais réagir d'abord par rapport à Gaston. Gaston a semblé dire que selon lui, le mensonge n'est pas nuisible. C'est normal,
oui,
qu'on puisse mentir. C'est comme cela, j'avais dit au début que le mensonge... Et dans nos gènes, c'est quelque chose que nous naissons avec. Et lorsqu'on est enfant, on comprend normalement, on comprend que c'est pas un problème, parce qu'on ne se sent pas, on n'a pas une personnalité, on se dit, on s'identifie à telle ou à telle autre personne. Mais lorsqu'on grandit, lorsqu'on ment, ça devient nuisible par rapport à vous-même et par rapport à votre entourage. Et c'est comme cela que vous allez perpétuer votre mensonge à vos enfants, aux petits-enfants, là où vous travaillez, dans vos milieux. Ça, c'est vraiment nuisible. Les mensonges, nous devons l'écarter dans notre vie, bien que c'est difficile d'écarter les mensonges à 100%. Quelque part, comme il a parlé aussi de la Bible, les mensonges, quelque part, pouvaient aider, comme dans le cas d'Abraham. On avait aimé sa femme. Mais Abraham a constaté qu'on a aimé sa femme, il ne pouvait pas laisser faire. Et il s'est dit, si je parlais, si j'osais accepter que c'est ma femme, on va me tuer. Mais il a menti que c'était sa sœur. Ça, c'était une façon de protéger. C'était un mensonge de l'amour. Un mensonge qui amène quelqu'un à protéger l'autre, à défendre un intérêt qui est un intérêt public. Mais les mensonges en soi, si on ment comme on respire, si on ment à tout bout de champ, vraiment c'est un mal, c'est une pathologie. C'est un trouble de personnalité qu'on doit soigner. C'est nuisible.
Oui. C'est nuisible. Jeff nous dit qu'il disait la vérité à quelqu'un, mais cette personne ne croyait toujours pas. Qu'est-ce que vous voulez lui dire?
Jeff a raison de dire ça parce que dans notre société, le mensonge est devenu comme la nourriture, comme des cacahuètes, comme monnaie courante. Les gens mentent même à des petites choses. Les gens mentent même à ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Ils savent que ça, là, je ne peux pas réaliser. Ils mentent. Mais lorsque tu viendras dire la vérité, on a déjà constaté que tu mens beaucoup. Et lorsque tu viens dire la vérité, les gens acceptent difficilement. Il faut des preuves pour accepter cela. C'est normal. C'est que chez Dieu, il y a toujours eu des mensonges qui précédaient. Et lorsqu'il vient dire la vérité, on a du mal à accepter. Mais dès le bas âge, dès sa connaissance avec ses amis-là, si on savait que Dieu était toujours quelqu'un d'honnête, on ne peut pas. Moi, là, on ne peut pas dire que je mens. Parce que c'est difficile. C'est parmi les rares fois que je peux mentir. Lorsque je sens vraiment qu'il y a un danger, à ce moment-là, oh, je peux mentir. Mais ça ne peut pas devenir une pathologie. Et lorsque je dis à un ami quelque chose, directement, il dit, ah, Rit, je te fais confiance parce que toi, je te connais. Mais Dieu, ça signifie qu'on les connaît aussi, que c'est un menteur. Et là, c'est pas normal. Vraiment, chez Dieu, nous devons déplorer ça. Il doit changer de comportement pour que les amis changent aussi l'image et changent leur façon de voir et de considérer Jeff.
Voilà. On va accueillir Alain de Kananga et Mary est également à Kananga. Bonjour Alain.
Bonjour Radio Capier, bonjour à l'invité, surtout moi cette femme.
Alain, d'après vous, comment vivre avec une personne qui ment sans cesse?
Oui, moi je voudrais d'abord commencer par un témoignage comme ça.
Oui.
J'ai un ami qu'on a étudié et évolué avec lui depuis les humanités. Mais cet ami-là, il a toujours tendance à me tromper, à dire des histoires, même si les histoires sont terre à terre. Et surtout, il se trompe en matière de forme. Il dit ça avec une telle fille, la fille de ministre là, c'est moi qui l'a tous les jours ici, elle est à ma disposition, tout ça. Mais à la longue, si vous menez des investigations, ce n'est pas vrai. Et lorsque vous voulez connaître maintenant la vérité, vous demandez à la fille en question, ça pose toujours des problèmes. C'est pour ça que je voudrais demander à l'éviter qu'on peut avoir un tel ami. Parce qu'il trompe même par des petites choses comme ça. Et s'il faut te tromper, il te trompe et tant que tu sais qu'il est en train de tromper. Alors dans ce moment-là, qu'est-ce faire pour bien vivre avec cet ami-là? Il faut l'écarter, soit il faut le conscientiser pourvu qu'il ne puisse pas toujours tromper. Deuxième question, comment voudriez-vous dire que, comme l'éviter vient de le dire, que le mensonge est inné. Est-ce que tout le monde trompe seulement si le mensonge est inné? Je ne pense pas que tout le monde se trompe. Et s'il faut tromper, c'est si tout le monde est trompé, ce n'est pas vraiment toujours dans leur intérêt. C'est pourquoi je voudrais bien que l'invité explique bien sur la matière qu'elle nous a dit que le mensonge est inné. Parce que je ne pense pas que tout le monde est trompé. Comme tout le monde ne peut pas tromper, donc il y a aussi un garde des personnes qui ne peut pas tromper et d'autres trompent. Comme moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai été trompé. Je suis sûr de moi-même que je parle.
D'accord. Merci Alain. Et Mary, vous êtes aussi à Kananga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets, vivre avec une personne qui ment beaucoup?
Et merci beaucoup, monsieur Jody. Je comprends qu'il y a des vérités absolues et des vérités relatives. Les vérités absolues, ce sont des vérités qui ne peuvent jamais subir aucune modification. Et les vérités relatives, ce sont des vérités qui peuvent être changées à tout moment. J'étais enfant, par exemple, j'étais en train de mentir, mais je ne savais pas que je mentais. Et vous comprendrez que le fait de grandir, j'ai compris que mentir, c'est mauvais. Et des gens qui je vivais avec continuent à croire que non, je mens toujours. Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour les convaincre, pour gagner encore leur confiance? Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ce petit-là, c'est un menteur. Malgré que vous le dites la vérité, mais ils ne croient pas toujours. Mmh. Et je voudrais un peu profiter encore pour poser la deuxième question à madame, c'était pour savoir, on commence à mentir quand on a quel âge?
D'accord, merci. Professeur Rita.
Ok. Bon, je commence avec Alain qui a parlé de sa petite amie qui mentait, même si ce n'était pas nécessaire de mentir. Il y a de ces gens qui sont comme cela, qui mentent, même si c'est pas nécessaire. Et lorsqu'on a, par exemple, besoin, donc c'est un mensonge qui est ancré à lui, même s'il n'a pas cette chose-là, il veut mentir. Il y a des femmes qui peuvent dire que je suis véhiculée et ma voiture est dehors là. Mais en réalité, elle n'est pas véhiculée, elle n'a pas une voiture. Mmh. Tellement que lorsqu'elle voit les gens avec telle ou telle autre chose, ça les choque, ça les frustre et ça l'amène facilement à mentir, même dans des choses où les gens peuvent prouver que c'est pas réel.
Oui.
Et c'est normal. Déjà, pareil, on doit nécessairement, comme je le disais maintenant, on doit nécessairement l'expliquer. Mais lui dire que c'est pas bon de mentir. On est plus à l'aise lorsqu'on dit la vérité que lorsqu'on ment. Parce que nous savons tous que lorsqu'on ment quelque part, ça va vous rattraper. Cette vérité-là va vous rattraper, ça va vous humilier facilement. Mmh. Et lorsqu'on est humilié, on ne sait plus quoi faire.
Alors, donc, il a dit également, oui. Vous avez dit que le mensonge est inné. Alors, il se pose la oui. question de savoir si tout le monde ment.
Oui, j'ai dit les mensonges est inné parce que dès le bas âge, dès les 2 ans, 3 ans, vous allez constater que les enfants mentent pour un rien. Peut-être là, vous avez donné aussi l'exemple de la viande. Un enfant peut prendre du lait tout de suite là. J'ai vu ma petite fille prendre du lait, mais je lui demande avec la poudre tout autour de sa bouche, mais il ment parce que elle ne comprend pas que mentir là, c'est pas bon. Lorsque nous entrons dans les stades de développement ou lorsque nous entrons dans le développement de la personnalité de quelqu'un, nous avons les ça, nous avons les moi, nous avons les surmoi. Là, c'est en psychologie. Et les surmoi, ce sont les interdits de la société. Lorsque les parents disent, il faut pas mentir, les voisins, les amis, à l'école, l'éducation qu'on a, l'instruction qui nous demande de ne pas mentir. Et les moi, notre personnalité l'accepte. Mais lorsqu'il y a traversé entre la personnalité, là, les moi, et les surmoi qui sont les interdits, ça va vers les ça, vers l'inconscient de quelqu'un. Mmh. En ce moment-là, c'est devenu une pathologie. La personne peut mentir sans pour autant s'en rendre compte.
D'accord, on peut dire que le mensonge est inhérent à la nature humaine.
C'est inhérent à la nature de l'homme. On est avec. On est avec parce que quelque part, le mensonge peut nous protéger. Le mensonge peut nous protéger devant une situation dangereuse. Ça peut nous protéger. Mais lorsqu'on ment comme on respire, lorsqu'on ment à tout bout de champ, sans vous mentir, là, c'est pathologique.
Alors, Alain a dit, la personnalité
est perturbée.
Oui, Alain a dit tout à l'heure, une personne qui a l'habitude de mentir, est-ce que faut-il s'écarter de cette personne ou la conscientiser? Et puis, Émeric dit qu'il avait l'habitude de mentir avant, après, il a changé de comportement, mais les gens n'arrivent toujours pas à le croire.
Mais nous ne pouvons pas les écarter, c'est difficile. C'est nos frères, c'est nos amis, c'est nos maris, c'est nos enfants. C'est nos parents. Nous ne pouvons pas nous écarter d'eux. Nous devons seulement les approcher, les expliquer les inconvénients de mentir, les expliquer comment la personne peut vivre normalement sans pour autant mentir. Nous ne pouvons pas les chasser. Mais lorsque quelqu'un mentait tellement avant et qu'il veut changer sa façon, il faut qu'il y ait des preuves. Lorsqu'il change sa façon, dans un premier temps, les gens ont difficile à l'accepter, à comprendre. Et il doit dire la vérité avec des preuves à l'appui. lorsque j'amène quelque chose, je dis, je t'ai amené 100 dollars, voilà les 100 dollars. Mmh. Deuxièmement, je le fais. Troisièmement, directement, la personne change. Et dès qu'elle s'en va, elle va se dire, mais Alain mentait beaucoup, et Mary mentait beaucoup, mais dernièrement, elle ne m'a plus. Maintenant, il est devenu une bonne personne. Et c'est comme cela qu'on change.
D'accord.
Et lorsqu'on n'a pas de preuves, les gens restent perplexes, on ne sait pas. Mmh. Est-ce que c'est la vérité ou c'est toujours les mensonges qui habitent en lui?
Evelyne nous appelle de Kananga. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous écoutent en ce moment.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec une personne qui ment beaucoup?
Oui, je dis Daniel, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons avoir des réserves dans tout ce qui nous amène comme information, comme déclaration. On doit avoir des réserves avant d'agir. Il faut aller fouiller l'information, vérifier l'information avant d'agir. Mmh. Nous devons avoir beaucoup plus de prudence dans tout ce qu'il va nous dire, dans tout ce qu'il nous apporte comme nouvelle. En tout cas, on doit développer cet esprit-là. Mmh. Des deux, par moment, on se méfie. Hein? Il y en a qui se méfient. Néanmoins, autant l'approcher, lui faire des reproches à tout moment, c'est une façon de l'aider aussi, de pouvoir modifier son caractère. Mmh. Si c'est quelque chose d'inné, il faut toujours lui dire des vérités en face. Et il va commencer petit à petit à se gêner par moment. Il va commencer à se gêner par moment. Vous savez, Daniel, il y a de ces parents-là qui initient les enfants à mentir, à devenir menteurs. Il envoie l'enfant à voler quelque part chez son voisin. Et quand on vérifie l'information, il va dire, non, mon enfant ne sort jamais de la parcelle, mon enfant est toujours ici, mon enfant ne joue pas en dehors de ma parcelle, tout ça. Et par moment, lui-même, il va dire à l'enfant, si ce monsieur-là venait ou si cette dame-là venait et qu'il demandait si je suis là, vous allez lui dire que je ne suis pas là, je suis sorti. Voilà comment nous sommes en train d'initier les enfants à pouvoir mentir, à devenir menteurs dans la vie. Alors que ce sont des qualificatifs que nous devons éviter pour que les enfants bénéficient d'une certaine crédibilité auprès des autres.
D'accord.
Vous savez, quand vous avez toujours tendance à mentir, vous ne serez jamais à l'aise, vous serez gêné. Vous êtes allé quelque part, vous mentez pour arracher quelque chose, vous n'aurez plus le courage de revenir ou de repasser par là. C'est un problème. Mmh. Nous devons développer la vérité et ne dire que la vérité. Bien sûr, par moment, le mensonge peut vous sécuriser. Juste pour raison de sécurité, le mensonge peut vous aider. Mais que ça ne soit pas une vie. Cela ne doit pas être une vie. Nous devons nous en méfier.
D'accord, merci Evelyne.
Nous devons nous en méfier.
Merci Evelyne de Kananga. David de Mbujimaï, bonjour.
Bonjour Jody, Daniel, bonjour à tous et à toutes.
Alors d'après vous, comment vivre avec une personne qui ment beaucoup?
Voilà, moi, je pouvais d'abord commencer avec les mensonges. Le mensonge, en fait, c'est quelque chose, c'est une manière de parler le contraire de la réalité de la chose. Donc, moi, je soulèverais le problème. C'est quoi? Avec les mensonges, on peut toutefois céder, c'est une aide, hein. On peut toutefois s'épargner de quelque chose qui pourrait
arriver
à travers les mensonges.
Oui, on nous a déjà dit ça par vos prédécesseurs. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec une personne?
Donc, moi, j'avais juste des témoignages, hein. Je voulais un peu parler.
Oui,
vous savez c'est quoi la justice congolaise? On regarde notre justice. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un là qui est porté plainte à la justice, qui dit de la vérité. Je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu les mensonges par-ci, par-là. Il a volé, bien sûr. Il arrive là-bas et dit qu'il n'a pas volé. Aujourd'hui, j'ai même tant vu d'autres gars comme ça. Ils se sont fiancés avec les filles comme ça. Ils ont loué quelque part les motos, ramenés chez leurs parents. Bon, pour que les beaux-parents leur voient que, oh, ils ont d'argent comme ça, après un certain temps dans la maison, on ne voit rien. On trouve que des trucs là, qui ne sont pas réels. Maintenant, moi, je voulais savoir un peu, quelles sont les caractéristiques des menteurs? Parce qu'on n'est pas Dieu pour connaître un peu ce qu'une personne est. Mais comment est-ce qu'on va connaître que celui-ci est menteur, celui-ci n'est pas menteur?
D'accord.
En fait, je peux conclure, oui. Soit disant que nous ne devons pas tous mentir, voilà.
D'accord.
Nous savons très bien que quand on ment, on peut se sauver pour un temps, mais notre temps, ça finira toujours. Les mensonges finissent, mais la vérité vit éternellement.
Merci.
Nous pouvons tout
Merci.
Simplement continuer avec.
D'accord. Merci beaucoup. Alidor Mutipai de Kananga nous a écrit, il dit que lorsqu'une personne ment beaucoup, il faut l'amener chez un homme des dieux pour la délivrance. Ce sont les esprits impurs qui le poussent à mentir. Et puis, il nous dit que si certaines personnes mentent beaucoup au téléphone, vous verrez, la personne est à Kananga, mais elle vous dit au téléphone qu'elle est à Kinshasa. Même nos hommes politiques, ils viennent avec des discours démagogiques au moment de la campagne électoral, il vous dit que si vous me votez, alors je vais construire un stade de football, je vais vous donner de l'eau et vous aurez des meilleures conditions de vie. Mais quand il se retrouve au pouvoir, il oublie tout ce qu'il avait dit. C'est le mensonge partout. Professeur Ruth.
Oui. Premièrement, je vais réagir par rapport à Evelyne.
Mmh.
Et je la félicite et puis je la souhaite aussi bonne fête de femme. Evelyne a parlé aussi de la méfiance.
Oui.
Il faut se méfier de ces gens-là qui mentent. Or, lorsqu'on se méfie de quelqu'un qui ment, d'une personne qui ment, ça signifie qu'on envenime la situation, on aggrave sa situation. Cette peur-là que la personne aura face à vous, lorsque vous méfiez, sa situation va s'aggraver. Au contraire, il faut l'approcher. Il faut lui expliquer le bien fondé de dire la vérité. Et tout ça, c'est comme cela. Même les parents qui amènent leurs propres enfants à mentir. Et il a une dette, et il va dire à l'enfant que tel, lorsqu'il arrive, il faut pas dire que je suis là. Ça, c'est une façon d'apprendre les enfants à mentir. C'est pas bon. Nous devons d'abord commencer à corriger les parents, à changer d'abord le contexte des parents, à changer la façon, parce que ce sont des comportements antisociaux. Ce sont des caractères antisociaux. Dans les mensonges, c'est le manque de respect même mutuel. Lorsqu'on ment comme cela, ces parents-là n'ont pas de respect face à ses propres enfants. Alors, il faut commencer d'abord à corriger ces papas-là, cette maman-là, et ensuite, on va aller chez les enfants là où il a semé ces mauvaises graines. Et on va aller extirper cela. Et tout cela, moi je me dis, c'est pas seulement les pasteurs. Moi je peux pas prendre la part du pasteur parce que je ne suis pas religieuse ou pasteur.
Mmh.
Moi je suis scientifique, je suis psychologue. Je dis, faut amener, il n'y a pas de cure d'âme à faire là-bas. Et il faut seulement amener au psychologue, faire des tests et comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant même que la personne puisse mentir. Ce sont des grandes questions que les psychologues se posent. Qu'est-ce qui s'est passé avant que la personne commence à mentir? Qu'est-ce qui se passe maintenant qui le pousse à mentir? Et si on ne touchait pas ce nœud du problème, pourra se passer? Et tout cela, c'est pour comprendre ce qui se passe dans la tête de cette personne-là lorsqu'il ment.
Alors, on a suivi également que les téléphones favorisent beaucoup le mensonge aujourd'hui. Une personne est à Kananga, quand on l'appelle, elle répond, elle affirme qu'elle est à Kinshasa.
C'est pas seulement le téléphone, c'est la nature même de la personne. Lorsque la personne dit la vérité, même au téléphone, si c'est une personne qui ne veut pas mentir, même au téléphone, il ne va pas mentir. Mais une personne qui ment, quel que soit au téléphone, quel que soit, il devenait responsable quelque part, il va continuer à mentir. C'est pas seulement le téléphone qui fait qu'on puisse mentir. C'est pas toute personne qui a un téléphone qui ment. Mais ce sont les personnes qui ont en eux, dans leur germe, cette histoire de mentir n'a jamais changé. Ce comportement-là n'a jamais changé. Ils sont nés avec, ils grandissent avec, au lieu de le modifier, de changer ce comportement, il est resté attaché à ces comportements-là et il va grandir avec partout où il ira. Même s'il est en face de quelqu'un, sa téléphone, il va continuer à mentir.
D'accord.
Et ces personnes-là, il faut les prendre en charge.
Il faut les prendre en charge, donc ils doivent aller voir un psychologue pour la prise en charge. Marcel et Takananga Ismaël nous appellent de Lumbashi. Marcel, bonjour. Marcel, bonjour.
Oui,
allez-y rapidement, ne prenez pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par comment vivre avec une personne qui ment beaucoup?
Bon, moi, il y a un voisin qui a le véhicule.
Oui.
Pour lui, qu'est-ce qu'il lui fait? Quand, par exemple, deux jeux sont là, c'est des jeux coquets ou des jeux demandent les documents. Quand on fait le recouvrement là, lui part à la banque comme s'il paye les documents. Maintenant, quand on se regarde les gens en route, on voit comme si le monsieur dit, oh, ok, il était là, il a déjà payé les documents. Donc c'est comme ça le jeu qu'il lui faisait. Maintenant après, il a été surpris maintenant à faire la sonnance. On a dit non, mais ce monsieur sera déféré au parquet. Mm. Quand on arrive au parquet, c'est presque toutes les institutions qui demandent des documents, des véhicules, qui étaient sur place, étaient représentés là-bas. Non, lui n'achète pas, donnez-nous ces documents. Le monsieur était mou. Là, il a payé les arriérés de ces documents, presque tout. De là, quand il est sorti, c'est un voisin, il m'a dit, moi, je ne peux même pas encore un jour oser mentir. Bon, c'est ça, je voulais demander à l'invité. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, les gens vont continuer à mentir. Est-ce que pour le voisin là, c'était l'avantage pour lui parce qu'il ne payait pas les documents de l'État. Mais les conséquences, maintenant, il est venu dépenser plus que. Comment lui conseiller alors les autres, au cas où il manifeste les mêmes faits?
Merci. Après. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Jody Daniel. Bonjour à tout le monde.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour aider les personnes qui mentent à tout moment?
Merci beaucoup. En définitif, il faut d'abord savoir la nature de ce qu'on dit. C'est pourquoi je pose une question à madame. Comment on peut faire la différenciation? Comment on peut faire le parallélisme entre un mythomane et un menteur? Car la source de deux personnes, il est difficile d'identifier correctement parce que c'est lui qui ment. On ne sait pas correctement s'il ment. Alors, parce qu'un mythomane, il vous dit quelque chose qu'il n'a pas vu et qu'il n'a pas conçu. Et quelqu'un qui n'est pas en rêve, qui n'est pas endormi, vous dit « j'ai rêvé telle ou telle chose ». Mais maintenant, aider une personne telle que dans le domaine de réparation, par exemple, vous arrivez chez un réparateur, il vous dit « voyez, votre pièce était telle, telle, telle pièce, donne-moi tel argent, je vais dans le marché, je vais trouver telle, telle pièce ». Mais pourtant, l'argent que vous donnez, ce n'est pas l'argent confortable et assez dans quelque chose qu'il vous dit. Mais dans le domaine scientifique tel que dans la médecine, on peut vous dire par exemple, au lieu de vous dire que tu as la carence du sang, il vous dit non, tu vois, il y a le problème de bilirubinémie, bon, il y a le réductase. Là, on ne fait pas rien pour gagner un peu du pain. Imagine un peu par exemple chez les joueurs. Il a tué son conjoint dans le maillot, il vous dit, il vous ment correctement que je n'ai rien fait. Mais maintenant, la question que je pose, par exemple à ce genre de personnes, à qui est-ce qu'il ment? Pour que les joueurs, il ment. Au public, à l'arbitre ou à d'autres joueurs qu'il est avec dans le terrain.
Ismaël, les gens parlent aussi des tailleurs. Vous avez laissé un vêtement chez les tailleurs, vous revenez, ils vous disent venez demain.
C'est ça, et c'est tous les tailleurs. Quand tu viens, vous dit viens demain. Même maintenant, j'ai encore un tailleur qui a ma veste. Ça fait maintenant 3 mois. Quand je dis, je passe à votre travail à 20h, je vais vous laisser ça.
Oui.
Tel que dans la conséquence, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Mais ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume du ciel? Mais à ce fait, est-ce que mentir est un péché? Si c'est un péché, comment ce genre de personne peut se délecter de ce genre de comportement meurtre?
Merci. Professeur Rutter.
Oui.
Vous avez la parole.
Ok, par rapport à la préoccupation de Marcel, par rapport à consort, et il a donné l'exemple.
Oui.
Et lorsqu'il y a eu punition, lorsqu'il y a eu sanction, et ce voisin-là s'est dit, je ne pouvais plus. Et c'est comme cela, on dit, par rapport à nos politiques, nous ne sommes pas politiciens. Et les politiques doivent sanctionner dans des cadres pareils, là où les gens commettent ces délits de mensonges. Mais nous, par rapport à notre science, nous avons aussi nos sanctions à nous, ce sont des thérapies que nous allons faire. Mais des thérapies qui ne sont pas, des sanctions qui ne sont pas négatives, des sanctions qui sont positives, qui peuvent changer la personne. à mieux se comporter. Et par rapport à Daniel qui parle de parallélisme entre la mythomanie et le mensonge.
Oui.
Oui, la mythomanie, lorsqu'on est mythomane, on ne comprend pas qu'on est mythomane, on est inconscient de sa situation. C'est une forme de psychose. On dit des choses qui ne sont pas réelles, mais qu'on ne se rend même pas compte. Mais par rapport au mensonge, on sait, il y a des fois on sait qu'on ment. On doit mentir pour telle situation, pour se protéger à telle. Et arrivé à un moment, on s'est dit, je dois me protéger par rapport à la loi, par rapport aux sûrement aux interdits de la société, par rapport à ceci, je dois mentir. Et consciemment, on est à l'état de conscience et on peut facilement mentir.
Voilà, il a parlé, Ismaël a parlé aussi de certains réparateurs, des appareils qui mentent, certains tailleurs, certains médecins et même certains joueurs. Il a commis une faute, tout le monde a vu et l'arbitre l'interpelle, il dit non, je n'ai rien fait.
Oui, là, c'est une façon aussi de se protéger par rapport à soi-même.
Oui.
Parce qu'il y a des fois, on ment comme cela. Parce qu'on veut d'abord se satisfaire. Lorsque nous faisons des choses, c'est d'abord par rapport à nous-mêmes, par rapport aux besoins que nous exprimons. Nous avons besoin de rendre la vie facile aux autres. Nous avons besoin de rendre la sincère aux autres. Nous avons besoin de présenter une bonne situation aux autres. On ment par rapport d'abord à soi-même pour se satisfaire. Et aussi par rapport à son public, on doit aussi attirer, c'est un besoin que nous avons, le besoin d'aimer et d'être aimé. Lorsque nous voulons que nous soyons aimés, il y a des fois les joueurs, il y a des fois les médecins, il y a des fois les gens mentent comme cela. Ils utilisent des gros mots, ils utilisent des mensonges par rapport à lui-même pour satisfaire, attirer et se faire valoir par rapport à l'autre. Et tout cela, c'est pas bon lorsque c'est exagéré. Ça, c'est pas bon. Il faut, quelqu'un doit devenir conscient de sa situation, dire que ici, j'ai mal fait. Il présente la réalité comme telle. Ici, je l'ai fait comme ça parce que je devais me défendre comme ça. Il doit présenter la réalité de la chose. Et lorsqu'on est incapable de présenter la réalité comme telle, de se montrer comme telle, de donner le meilleur de soi-même en réalité, là, c'est devenu un problème et là, et je ne cesserai de le dire que des personnes pareilles, ils doivent aller en consultation psychologique et on doit les tester, comprendre qu'est-ce qui est à la base de cela
et par rapport, les suivre. Oui, et par rapport aux politiciens qui font des discours démagogiques, si vous me votez, je vais faire ceci, je vais faire cela et quand il est voté, on le vote, après il n'y a rien, il n'y a plus rien.
Et vous savez, moi, je réponds là, étant psychologue, je dis, il n'y a pas de politique sans psychologie. Donc, nous devons avoir une psychologie politique aussi. Nous devons commencer d'abord à persuader nos politiciens. Nous devons commencer à les aider. Quelqu'un qui n'a jamais connu que mentir, dire des mensonges, c'est pas mauvais. Cette personne-là, même s'il devenait ministre, même s'il devenait je ne sais qui, il va continuer à vivre comme tel et à mentir. Donc nous devons changer la mentalité même de nos politiciens. À partir des prises en charge psychologiques, nous devons faire des bilans psychologiques de tout ce monde qui passe à la politique. Qui prendre et qui ne pas prendre? À l'avance, nous devons déjà comprendre. Avec des tests de personnalité, nous devons déjà comprendre à l'avance que tel n'a pas un profil de devenir politicien. S'il devenait ministre, il devenait président, il devenait tel, il peut mentir à tout bon chat, il peut chambarder tout dans ce pays. Et tel peut aller, parce qu'on sent, on voit des présages qui peut facilement modifier, facilement prendre en charge sa population, facilement dire la vérité. Donc nous devons déjà comprendre, avoir déjà des profils, des personnalités de tous les politiciens qui devaient passer.
D'accord.
Ça, là,
d'accord.
Rien à faire. Les psychologues devaient être au milieu
d'accord.
de tout.
Bien. Professeur Ruth Boukaba, psychologue, clinicien et enseignant à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de Kinshasa, nous vous disons merci et à la prochaine.
Merci Daniel, merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie.